Et c'est l'heure de le retrouver. On va le joindre au bout du fil à l'instant. Olivier Beauregard, bonjour.
Salut.
On parle tout d'abord de hockey, plus précisément, oui, des Sénateurs d'Ottawa et de leur course aux séries, parce qu'on espère encore pouvoir s'y rendre, là.
Ben absolument. Puis avec le début de saison que les Sénateurs avaient connu, tu sais, il n'y a pas personne qui s'attendait peut-être à une course aux séries en fin d'année comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que les Sénateurs ont encore leur destin entre leurs mains. Ça sera pas facile, ça va être même très, très difficile. Mais une chose qui est sûre, Sébastien, c'est que les Sénateurs restent dans le portrait des séries éliminatoires. Tu sais, en ce moment, c'est pas compliqué. Là, cette équipe-là se bat pour une place en série contre les Red Wings de Détroit et contre les Sabres de Buffalo. Je regardais le classement un peu là aujourd'hui, puis je vais te le dire, là, c'est pas facile. Là. Les Sénateurs, en ce moment, dans leur division respective, c'est-à-dire dans la division Atlantique, sont poursuivis par les Sabres de Buffalo, les deux à égalité à 68 points. La bonne nouvelle, c'est que les Sénateurs et les Sabres devraient s'affronter, donc ce sera des matchs très intéressants cette saison. Il y a également les Red Wings de Détroit, eux, qui sont à 67 points derrière les Sénateurs et les Sabres, et ça fait en sorte que les Red Wings, avec un match de plus, eux, là, pourraient se distancer tranquillement parce que c'est plus difficile à l'emporter récemment. Là. Fait que, tout ça pour dire que les Sénateurs, ça va être très intéressant la fin de saison. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Puis il y a eu un engouement qui a été créé là ici là dans le coin de Gatineau, Ottawa. Là, les gens parlent beaucoup des séries éliminatoires qui s'en viennent des Sénateurs parce que les gens espèrent une place en série avec des gars comme Claude Giroux, Brady Tkachuk, Alex DeBrincat, j'en passe. Là, l'acquisition de Jacob Chychrun depuis les dernières semaines, on dirait que tout le monde a hâte et espère que les Sénateurs soient en série. Puis tu sais, ça a été ça un peu le message à Pierre Dorion à la date limite des transactions, ou plutôt quelques jours avant la date limite des transactions, c'est « Hey, savez-vous quoi? On vous fait confiance, on va aller de l'avant, puis on pense qu'on peut se battre pour une place en série. » Alors, ce que Pierre Dorion a fait, il est allé chercher probablement le meilleur défenseur disponible, en tout cas. Pas mal sûr que c'est un des meilleurs qui était disponible en Jacob Chychrun. Et ça fait en sorte que les Sénateurs sont maîtres de leur destinée. Mais tu sais, quand je dis que ça sera pas facile, là, on faisait des calculs rapides pour que les Sénateurs se classent dans les séries éliminatoires avec 68 points présentement. Là, ça va leur prendre au moins 85 à 88 points. Et pour que ça soit réalisable, les Sénateurs ne peuvent pas perdre plus que, si je me trompe pas, là, c'est 5 matchs la fin de la saison.
C'est pas beaucoup.
Écoute, c'est pas beaucoup. Alors, bref, ce sera à suivre, mais ça va être très intéressant. Et, tu sais, quand je te parle de renouveau chez les Sénateurs, puis un peu un vent de, je pense, d'optimisme, là, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ça vient avec d'autres bonnes nouvelles. On apprenait, puis c'est nos collègues d'RDS qui nous mentionnaient ça, là, c'est qu'il y aurait au moins 3 acheteurs potentiel et intéressé à acquérir les Sénateurs d'Ottawa, la concession. Je vous parlais de l'acteur canadien Ryan Reynolds récemment. On dit que c'est lui, là, les démarches sont entamées.
Oui, pratiquement... il s'est trouvé des amis aussi avec des gros sous. Là. Il n'est plus tout seul. Là.
Exactement. Donc lui, là, on dit que c'est probablement le candidat le plus sérieux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres gens qui sont derrière et dans la course. Alors, ça fait monter les enchères de l'organisation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis ce qu'on nous dit, c'est que tous ont l'intention de garder l'équipe à Ottawa. Alors ça, c'est encore plus encourageant pour les partisans, pour les gens de la région. Dans les dernières là, équipes, si tu veux, qui pas les équipes, mais plutôt les groupes d'acheteurs qui se sont manifestés, il y a le Galatioto Sport Partners. Connais pas nécessairement dans mon cas, là, mais on dit que ce sont quand même des gens qui ont travaillé dans le domaine du sport et dans plusieurs différentes sphères de la scène sportive. Donc ça pourrait être intéressant. Il y a justement là, nos collègues du Post Média ici à Ottawa qui nous mentionnaient cette semaine qu'il y a 3 offres et peut-être même une 4e. Là, c'est à Gary Bettman et son groupe justement d'étudier les dossiers. Mais écoute, Ryan Reynolds l'a mentionné, il est très intéressé depuis déjà un bon moment à s'acquérir des Sénateurs d'Ottawa. Lui, il fait partie du Remington Group. Pardon, mon anglais aujourd'hui a de la difficulté. Là. Ce groupe-là serait, disons, le groupe le plus sérieux. Et ce que je trouve intéressant, puis je le rappelle parce que c'est tellement important, les Sénateurs, là, non seulement on veut s'acquérir cette franchise-là, mais on veut les garder à Ottawa. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors avec la petite vague de séries éliminatoires, puis la petite vague aussi de désir d'acheter, de désir peut-être d'un nouvel amphithéâtre prochainement, je pense que c'est bon et les Sénateurs devront profiter de cette occasion-là pour faire un travail de marketing un peu plus intense, c'est-à-dire d'être plus prononcé dans notre communauté, puis aussi d'aller voir nos partisans francophones. Ça fait défaut. Les gens à Gatineau, là, pas vu souvent le monde des sénateurs à Gatineau, mm-hmm. moi. C'est important de le faire, c'est important de se manifester dans notre communauté, et je pense que là, à partir de ce moment-là, bien, il y aura un intérêt encore plus prononcé pour les sénateurs.
Juste pour préciser, là, tantôt tu parlais de Gary Bettman, est-ce que c'est lui qui a le dernier mot au bout de la ligne, ben, ou c'est vraiment les héritiers de Eugene Melnick?
Généralement, Gary Bettman va quand même faire des il va y aller de recommandations.
Okay.
Parce que au final, tu sais, les équipes de la Ligue nationale appartiennent quand même à la Ligue nationale. Donc ils doivent avoir leur mot à dire sur le groupe de propriétaires. Puis tu sais, il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans, là, ça dépend des deux côtés où on se tient, mais pour moi, c'est très difficile de trancher entre est-ce que c'est plus positif ou négatif, puis je t'explique. C'est que pour moi, j'aime que la Ligue nationale se mette dans des dossiers comme ça parce que ça dit, hey, on veut pas vendre une concession à n'importe qui, mm-hmm. puis que, tu sais, par la suite, on se retrouve avec des propriétaires qui sont tout croche, puis un peu comme avec les Alouettes de Montréal, on se retrouve sous tutelle parce que les propriétaires, ben, il y avait rien de sérieux là-dedans, puis il y avait pas nécessairement de désir de vouloir, tu sais, investir convenablement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à ce niveau-là, Sébastien, par contre, puis ça, c'est un peu le couteau à double tranchant, c'est quand tu as une Ligue qui décide d'intervenir ou de légiférer dans une acquisition, ben des fois, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit acquérir. C'est mm-hmm. toujours le même type d'entrepreneurs qu'on voit arriver dans la Ligue nationale. Puis aussi, ben souvent, c'est des gens qui ont le désir éventuellement, peut-être, de déménager dans des marchés américains, de déménager dans des marchés où Gary Bettman tente de s'implanter depuis déjà un bon moment. Mm-hmm. Ça, j'aime moins ça. Parce que tu vois, les sénateurs d'Ottawa, ce qu'on nous dit, c'est qu'on veut qu'on les garde à Ottawa. Mais connaissant Gary Bettman, s'il décide de ramener une franchise à Atlanta, ça sera malheureusement pas les Coyotes de l'Arizona. Ça va être mm-hmm. probablement une équipe canadienne qui fonctionne moins comme les sénateurs. Alors, tu sais, ça, c'est le côté un peu plus négatif de cette phase-là. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à dire, mais je sais qu'ils ont un mot à dire. Et je sais que généralement, là, on intervient dans des situations comme ça.
Maintenant, parlons boxe et de Marie-Ève Dicker qui a annoncé sa retraite hier.
Oui, exactement. Probablement notre plus grande athlète féminine de la boxe. Il y a Kim Clavel qui est pas loin derrière présentement, mm-hmm. mais Marie-Ève Dicker, c'est une carrière exceptionnelle. Là. Écoute, elle a annoncé cette semaine, puis pas plus tard qu'hier, en fait, la Journée internationale du droit des femmes. Pour elle, c'est une journée importante. C'est cette journée-là qu'elle avait signé son premier contrat professionnel. Elle voulait annoncer sa retraite. C'était déjà depuis longtemps en réflexion. On dit même qu'avant son dernier combat, c'était déjà bien réfléchi, bien, puis que la décision était déjà bien prise. Mais c'est ça. Comme je le mentionnais, écoute, elle a détenu le titre des super moyennes de décembre 2018 à mars 2021. C'est incroyable. Mm-hmm. Je veux dire, ça a été une combattante de tous les niveaux. C'est probablement l'athlète féminine au niveau de la boxe là, qui va avoir écrit le plus de pages d'histoire, ou du moins qui va avoir pavé la voie justement à des Kim Clavel comme ça, et qui va avoir donné le coup à d'autres filles, d'autres femmes d'embarquer dans des sports de combat comme ça, puis de leur prouver que ben ils ont leur place elles aussi. Comme je le disais, c'est le choix du 8 mars pour annoncer sa retraite. C'est pas anodin, là. C'est le 8 mars qu'elle a signé son premier contrat avec Jim en 2016.
Okay.
Et ça avait été justement là pour elle une des dates les plus importantes de sa carrière. Elle savait qu'éventuellement elle prendrait sa retraite. Puis elle l'a dit hier en point de presse. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Elle a dit, il y a tellement eu de combattants qui ont fait le combat de trop. Tu sais, le combat, mm-hmm. ils se sont pas retirés de la bonne façon. Alors hier, Marie-Ève Dicker a annoncé lors de son point de presse, elle a dit, moi j'ai tellement peur de disputer ce combat-là, ce combat de trop-là, que j'ai pas envie de le faire. Je pense que c'est un bon moment pour moi de me retirer. Disons qu'elle a aussi beaucoup de contrats médiatiques, Marie-Ève, avec la poche bleue notamment, etc. Donc, elle, son avenir est assuré. Elle a plus besoin nécessairement de se battre. Alors, non, je trouve que c'est vraiment... Tu sais, on n'aime pas ça, mais en même temps, on je pense que c'est important de souligner la carrière des gens comme ça. On aimerait ça qu'ils restent généralement, tu sais, indéfiniment. Ça va être drôle de dire que Marie-Ève Dicker ne se battra plus dans un ring, mm-hmm. qu'on fera plus la promotion de ses combats. Mais je le dis puis je le répète, pour moi, Marie-Ève Dicker, ça va être la précurseur de plusieurs autres combattantes. Puis c'est elle qui a ouvert la voie vraiment à la boxe féminine au Québec. Pour moi, là, c'est vraiment l'athlète qu'on va regarder dans 20 ans, dans 20, 30, 40 ans, puis se dire, hey, c'est elle qui a été la première à nous faire croire que les femmes dans la boxe avaient leur place puis pouvaient être championnes du monde.
Bon, ben un beau... belle carrière qui se termine pour elle. Absolument. Comme tu disais, on la reverra ailleurs sous d'autres fonctions. Ouais. On peut pas terminer la chronique sans glisser quelques mots sur la démission de Gilles Courteau. Ça s'est fait dimanche, si je me trompe pas.
Oui, absolument. Écoute, là, je veux juste prévenir les auditeurs. Je vais faire attention un peu, puis je vais peut-être... me garder une certaine réserve là, parce que bon, je suis employé de la Ligue junior majeure du Québec, faut que je fasse attention de la façon que je veux me prononcer, mais je veux quand même, tu sais, je veux pas être hypocrite, puis je veux être transparent envers vous. Cette démission-là de M. Courteau, c'est une démission qui a pris tout le monde de court. On savait que M. Courteau allait quitter à la fin de la saison, puis qu'il y avait déjà un processus bien enclenché pour nommer son successeur. Il y a eu immensément d'histoires médiatiques. Il y a eu immensément de faussetés médiatiques. Il y a eu immensément de vraies histoires également qui ont vu le jour. Mais il y a une chose que je peux vous dire, par exemple. C'est que ceux qui se sont prononcés dans les derniers jours, dans les dernières semaines, concernant la Ligue junior majeure du Québec, le dossier de Martin Leclerc, etc., c'est malheureux, mais généralement, ceux qui se sont prononcés le plus, Sébastien, c'est ceux qui ne fréquentent pas les établissements juniors majeurs. Mm-hmm. C'est ceux qui ne prennent pas conscience de tout ce qu'on fait au niveau de l'encadrement chez les équipes. Et Gilles Courteau, lui, a finalement écopé d'une pression médiatique qui n'avait pas de bon sens. Oui, ça n'a pas été facile pour lui, disons-le, devant la commission parlementaire. Oui, il a fait une bourde. Oui, il s'est trompé. Mais Gilles Courteau, en ce moment, paye, et la Ligue junior majeure du Québec paye pour un dossier de Martin Leclerc qui a été mis de l'avant par la Ligue de l'Ontario. Soyons honnêtes, les accusations qui ont été portées puis les histoires révélées font partie de la Ligue de l'Ontario. Je comprends que ça peut se passer dans la Ligue junior majeure du Québec, le dossier des initiations. C'est interdit par les équipes. Mais les équipes peuvent pas suivre leurs joueurs 24 heures sur 24. On peut pas choisir ce qui se passe en dehors. Nous, on peut donner des outils puis prévenir les gens que c'est inacceptable. Après ça, t'sais, c'est comme si tu dis à ton enfant de pas conduire avec un verre dans le nez, puis que ton enfant décide de le faire quand même. Est-ce que tu es imputable de ça? C'est difficile à dire. Mais c'est un peu ça, la situation qui se passe présentement dans la Ligue junior majeure du Québec. Et c'est plate parce que, vu que c'est la Ligue junior la plus médiatisée au pays, parce que la WHL, la OHL, c'est pas la même chose que la Ligue junior majeure du Québec au niveau de l'entourage médiatique puis de la couverture médiatique, ben c'est la Ligue junior majeure du Québec aujourd'hui qui s'est retrouvée orpheline d'un commissaire. Je comprends que là, on a nommé Mario Ciccioni. Je ne suis pas là pour parler de sa nomination. Moi, je suis là pour parler de M. Courteau qui quitte plus rapidement que prévu. Puis pour vous dire, je comprends l'enjeu, là, je comprends la décision, je comprends le mouvement derrière ça. Puis je vous dis pas que la Ligue est parfaite. Là. Au contraire, il faut continuer à travailler. Mais il y a une chose qui est certaine, par exemple, il y a un désir, puis ça a été initié par M. Courteau. Si M. Courteau n'avait pas été à la tête de la Ligue junior majeure du Québec pendant 37 ans, il n'y aurait peut-être pas eu cette évolution-là. Il n'y aurait peut-être pas eu autant de bourses d'études qui sont remises par année aux joueurs. Il n'y aurait pas autant de joueurs qui jouent universitaires par la suite. Et ils joueraient dans East Coast, ils joueraient dans des ligues en Europe pour faire de l'argent. Non, aujourd'hui, ils jouent dans les circuits universitaires pour poursuivre leurs études parce qu'on leur donne des bourses, parce qu'on leur donne des moyens de finir leur école. Moi, tu vois, c'est ça qui me dérange. C'est comme si la Ligue junior majeure du Québec aujourd'hui, c'était elle la grande méchante, puis pourtant les accusations viennent de la OHL. Puis le commissaire de la OHL en ce moment, là, il est-il assis sur un siège éjectable, lui? Comment ça fait que personne ne questionne? Puis comment ça fait qu'il n'y a pas de compte à rendre? Comment ça fait qu'il n'y a pas de commission parlementaire?
Ouais, poser la question, c'est un peu y répondre. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton précieux temps aujourd'hui, puis on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, merci à toi.